Bienvenue à l'écoute de Carrefour, votre rendez-vous hebdomadaire avec les sciences, technologies et la santé. Jacques Aristide avec vous. Au sommaire, pourquoi le vaccin le plus avancé contre le paludisme devient-il moins efficace après quelques années? Élément de réponse tout à l'heure grâce à un essai clinique au Kenya. Un peu plus tard, plein feu sur la e-santé, les nouvelles technologies au service de la santé publique. Et bien, nouvelle étape avec le lancement d'un observatoire dédié aux pays africains notamment.
Oui, alors nous avons constaté sur le terrain, en fait, la montée des nouvelles technologies et l'adoption massive par les populations des pays du Sud de ces technologies, surtout, en fait, le téléphone mobile.
Également au programme, voyage dans l'espace pour parler de la mission Juno autour de Jupiter, cette planète géante bourrée de mystères. Tout cela et bien d'autres à venir dans ce numéro de Carrefour sur VOA Afrique. D'emblée, un condensé des nouvelles de santé de la semaine en Afrique. Nouvelle étude au Libéria sur la persistance d'Ebola chez des survivants. Zika, 3 cas enregistrés en Guinée-Bissau, deuxième pays d'Afrique touché. Et lancement par l'OMS d'une campagne de vaccination contre la fièvre jaune en Angola et RD Congo. Le développement de ces titres avec John Lyndon.
L'Organisation mondiale de la santé lancera en début du mois d'août une vaste campagne de vaccination contre la fièvre jaune concernant 15,5 millions de personnes en Angola et en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a indiqué jeudi à Genève le Dr Bruce Allward, directeur exécutif par intérim de l'OMS. Cette campagne de vaccination sans précédent concerne près de 4 millions de personnes en Angola et 11 millions en RDC. Son coût estimé est de 34 millions de dollars, dont 14 millions déjà disponibles. À ce jour, la fièvre jaune, une maladie virale hémorragique causée par une piqûre de moustique, a été signalée dans 47 pays dans le monde, dont 33 sont africains, l'Angola où l'épidémie s'est déclarée en décembre 2015 et la RDC sont les deux pays africains les plus touchés. L'OMS recommande cependant que tous les voyageurs se rendant en Angola et à RD Congo soient vaccinés. Une nouvelle étude a été lancée au Libéria sur la persistance du virus Ebola chez des survivants de l'épidémie qui a fait plus de 11 300 morts depuis fin 2013 en Afrique de l'Ouest. L'étude est conduite par le Partenariat pour la recherche sur les vaccins anti-Ebola au Libéria, un programme mené en collaboration par le Libéria et les États-Unis. La dernière résurgence d'Ebola au Libéria a été déclarée terminée le 9 juin par l'Organisation mondiale de la santé. La Guinée-Bissau a annoncé avoir enregistré 3 cas de Zika dans les îles Bijagos, devenant le deuxième pays d'Afrique de l'Ouest à être touché par cette épidémie après le Cap-Vert. Aucun détail n'a été fourni sur les personnes infectées, leur état de santé, les localités précises où elles ont été recensées et sur la manière dont le Zika a pu atteindre l'archipel des Bijagos, composé de 88 îles et îlots dont 23 sont habités.
Le vaccin expérimental RTS-S, le plus avancé contre le paludisme, perd une grande partie de son efficacité après quelques années. C'est ce que révèle un essai clinique effectué au Kenya avec des enfants, essai dont les résultats ont été publiés cette semaine aux États-Unis. De plus amples détails avec Anne Albertson.
L'étude paraît dans la revue américaine New England Journal of Medicine. Et d'après les chercheurs, la protection s'affaiblit également plus rapidement chez ceux qui vivent dans des zones où les taux de paludisme sont plus élevés que la moyenne. Ces résultats suggèrent que la capacité protectrice de ce vaccin varie selon les populations et montrent la nécessité de recherches supplémentaires pour trouver la façon la plus efficace de l'utiliser, soulignent les scientifiques britanniques. Il n'existe actuellement aucun vaccin homologué contre le paludisme. Le RTS-S, développé par les laboratoires britanniques GlaxoSmithKline, est le plus avancé. Il a été évalué dans le cadre d'un vaste essai clinique dans 7 pays africains. L'Agence européenne des médicaments a donné un avis favorable à ce vaccin en juillet 2015. Pour cette étude, des chercheurs du programme de recherche Kemri Wellcome Trust à Kilifi, au Kenya, ont suivi 447 enfants de 5 à 17 mois, dont une partie avait reçu 3 doses du vaccin RTS-S et un autre groupe témoin, un vaccin contre la rage. Pendant la première année, le taux de protection chez les enfants vaccinés était de 35,9% par rapport à ceux du groupe de contrôle. Mais après 7 ans, cette protection est tombée à 4,4%. En outre, chez les enfants exposés à des taux de paludisme plus élevés que la moyenne, le nombre de cas d'infection par le parasite P. falciparum, transmis par des moustiques, était légèrement plus élevé dans le groupe vacciné, soit 1002 cas après 5 ans, comparativement au groupe témoin, avec 992 cas. Cela s'expliquerait par le fait que les enfants vaccinés développent leur immunité naturelle plus lentement que ceux qui n'ont pas eu le vaccin, un phénomène observé dans de précédentes études, expliquent les chercheurs. Les résultats d'un essai clinique plus étendu, phase 3, avec ce même vaccin, publié en 2015, ont montré que 3 doses du RTS-S réduisaient le risque de paludisme de 28% sur 4 ans. Mais ce taux de protection est monté à 36% quand les enfants ont reçu une quatrième dose 18 mois après la première. Le docteur Ali Olotu, chercheur à l'Institut Camry-Wellcome, principal auteur de la dernière étude, souligne que l'étude montre que le vaccin RTS-S peut être protecteur pour les enfants, mais suggère aussi qu'une quatrième dose pourrait être importante pour maintenir cette protection plus durablement. Le paludisme a fait plus de 400 000 morts dans le monde en 2015, dont plus de 90% en Afrique subsaharienne, pour la plupart des enfants de moins de 5 ans. Cette dernière recherche a été en partie financée par l'organisation humanitaire PATH Malaria Vaccine Initiative et la fondation Bill et Melinda Gates.
Notre gros plan maintenant sur la e-santé. Comprenez l'ensemble des services du numérique utilisés dans les systèmes de santé. Un exemple, la télémédecine. L'augmentation rapide du nombre de smartphones en Afrique est un facteur de développement de la e-santé sur le continent. Toutefois, les projets de santé numérique, comme les start-up africaines qui proposent diverses applications, sont confrontés à d'importantes difficultés pour s'étendre, alors qu'ils représentent un moyen de pallier certains manquements des systèmes de santé. Bref, l'Afrique est au diapason de la e-santé, mais est à court d'investisseurs. Pour aider à régler le problème, la Fondation Pierre Fabre, basée en France, a décidé de créer un observatoire de la e-santé particulièrement consacré aux pays africains. Quels en sont les objectifs ? J'ai joint la directrice de cette fondation, Béatrice Garrette.
Oui, alors nous avons constaté sur le terrain, en fait, la montée des nouvelles technologies et l'adoption massive par les populations des pays du Sud de ces technologies, surtout, en fait, le téléphone mobile, et comment ça a pu changer, en fait, les usages et ouvrir de nouvelles possibilités. Pour essayer d'approfondir ça, on s'est entouré en fait aussi d'un groupe d'experts en se disant comment est-ce qu'on peut contribuer à notre niveau, aider à justement une bonne appropriation de ces technologies et à essayer d'encourager ce qui se passe et qui peut être utile à la santé dans les pays à ressources limitées. Et puis finalement, très vite, l'idée et enfin, le constat qui a été fait, c'est qu'il y avait beaucoup d'initiatives un peu partout, en fait, en Afrique, en Asie, mais qu'il y avait finalement peu d'informations structurées, claires, en fait, sur ce qui fonctionnait réellement sur le terrain. Et notamment, on a remarqué aussi qu'il y a énormément de projets pilotes qui arrivent à trouver des financements pour juste un test, une preuve de concept ou un pilote, et puis qui ensuite, eh bien, même si ça réussit à ce niveau-là, ne passe pas à l'échelle et il y a une déperdition de l'information. D'où l'idée de l'observatoire, repérer, recenser ce qui fonctionne sur le terrain et donner de la visibilité et essayer de contribuer au développement.
Quand on parle de e-santé, on parle de quoi exactement ?
Alors, on parle de comment les technologies de l'information et de la communication permettent d'avoir un meilleur accès aux soins, aux ressources médicales. Nous, on avait un peu identifié 4 domaines. La télémédecine, donc donner accès à des services de santé, à des spécialistes à distance, mais également l'information, l'éducation pour le changement des comportements, tout ce qui est la sensibilisation des populations, l'éducation thérapeutique, puis aussi la gestion des datas, c'est-à-dire toutes les datas, les informations sur la santé, donc bon, évidemment, tout ce qui vient à l'esprit, c'est un peu le carnet de santé. Mais tout ce qui est information sur la population, sur l'état de santé de la population, l'épidémiologie passe par là aussi. Et puis enfin, il y a ce qui est la formation des professionnels de santé. Et on sait que, ben, notamment en Afrique, mais dans les pays plus pauvres d'Asie également, il y a une pénurie de personnel qualifié en santé, quoi. Une pénurie de médecins, une pénurie d'infirmières. Et encore plus une pénurie de spécialistes.
Dans la pratique, comment tout cela va se passer?
Oui. Alors, par exemple, disons, un peu la médecine du pauvre, mais qui fonctionne, c'est la prévention. C'est très important, la prévention en Afrique. Donc, on a repéré l'Observatoire actuellement a repéré, identifié 50 initiatives. Il y a un certain nombre d'initiatives qui se concentrent sur la mortalité infantile. Et il y a beaucoup d'enfants en Afrique qui meurent de maladies évitables. Donc, tout ça parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations des parents, il n'y a pas suffisamment d'attention et qu'ils ne recourent pas suffisamment préventivement aux services de santé dans les centres de santé. Alors, ça comprend la vaccination, ça comprend la surveillance du poids des enfants, ça comprend également une prise en charge un peu précoce quand il y a des problèmes, au lieu de faire une prise en charge tardive en urgence qui souvent, malheureusement, est mortelle. Et donc là, la e-santé concrètement peut aider. On a beaucoup d'initiatives qui permettent, par exemple, de sensibiliser les mamans, de leur envoyer des alertes via SMS ou par sur leur boîte vocale pour leur expliquer qu'elles doivent respecter le calendrier vaccinal qu'elles doivent envoyer. On a des applications qui permettent de surveiller le poids des enfants et d'alerter en cas justement d'anormalité qui est constatée parfois. On a également tout ce qui est aussi la santé de la future maman et de la maman, donc inciter les mères à vraiment respecter le suivi de grossesse, c'est-à-dire aller avoir les 3 consultations prénatales. Donc là aussi, si on réussit à les enrôler, à les sensibiliser et alors à les lier à un centre de santé et leur rappeler leur rendez-vous, c'est extrêmement efficace. Et sur le terrain, ça l'a prouvé.
On sait que les nouvelles technologies se développent très rapidement en Afrique. Donc on peut dire que l'Afrique est plus ou moins la pointe de l'e-santé, de la télémédecine, etc. Mais y a-t-il suffisamment d'investisseurs ?
Non, il n'y a pas suffisamment d'investisseurs. Donc justement, nous aussi, un de notre objectif, c'est de leur donner de la visibilité à ces gens. Et alors, on a surtout beaucoup repéré des équipes locales. Hein, c'est-à-dire que c'est localement qu'ils inventent, en plus dans une économie assez frugale. Hein, c'est-à-dire qu'ils se débrouillent avec des moyens très limités. Et l'idée, c'est de montrer justement l'impact, l'effet de levier quoi, de ces technologies sur la santé publique. De façon à ce que bon, des investisseurs privés s'y intéressent, mais aussi les autorités publiques des pays, enfin les ministères de la Santé. Parce que là, ils ont un moyen en fait, de maximiser en fait, un investissement pour améliorer la santé de leur population.
Béatrice Garret de la Fondation Pierre Fabre était en ligne de Castres en France. Nous l'avons donc compris, la e-santé qui vote à une réduction du coût de l'accès à la santé en permettant de fournir aux populations des informations pour lutter contre les épidémies et en visant à améliorer la couverture vaccinale et la lutte contre les faux médicaments. Mais comment tout cela se traduit sur le terrain ? Pour quelques éléments de réponse, je me suis entretenu avec le docteur Jacques Durand qui a mis au point l'application Docteur Gratis, un outil qui a été utilisé pour prévenir la propagation du virus Ebola en Afrique. Docteur Durand.
Ce qui est nouveau à la télémédecine, c'est plus les applications grand public qui permettent via un téléphone mobile, un smartphone, d'avoir accès à des consultations médicales ou à des avis médicaux avec des médecins en plusieurs langues, éventuellement dans d'autres pays. Tout endroit est possible maintenant. C'est intéressant, grâce à l'Observatoire, de pouvoir les répertorier, les analyser et de les mettre en valeur.
Nous savons que les systèmes de santé sont en difficulté dans pas mal de pays africains. Selon Béatrice Garret de la Fondation Pierre Fabre, les besoins sont criants en raison de la faiblesse des infrastructures ou de leur concentration dans les plus grandes villes dans plusieurs pays du Sud. Elle cite l'exemple du Mali, un pays de 15 millions d'habitants où il n'existe que 10 dermatologues et ils sont tous basés à Bamako. Alors, quelqu'un comme vous dans ce domaine, que pouvez-vous faire dans un pays comme le Mali ou dans d'autres pays en Afrique ?
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les réseaux de téléphonie mobile, on peut mettre à disposition dans n'importe quel pays d'Afrique, c'est ce qu'on fait déjà, des médecins spécialistes ou éventuellement des médecins généralistes. On s'affranchit donc des frontières, des distances et éventuellement des langues, puisqu'on a la possibilité maintenant d'avoir des médecins dans plusieurs langues. Donc je crois que la chance de l'Afrique, c'est que maintenant, grâce aux nouvelles technologies, les phénomènes de concentration que Mme Garret en effet a souligné peuvent éventuellement donc n'être plus un obstacle à soigner l'ensemble d'un territoire, puisque que ce soit le Mali ou par exemple le Nigeria, en dehors des grandes villes, il est possible, grâce à un téléphone mobile, d'avoir un accès à un médecin spécialiste ou éventuellement généraliste, quelles que soient donc les situations.
Donc, vous pensez que tout cela va changer pas mal de choses sur un continent comme l'Afrique, que les Africains vont avoir accès peut-être plus facilement à la santé ?
Alors, à la fois les Africains, puisque définitivement les Africains, comme tous les habitants de chaque pays, ont le droit d'avoir une meilleure santé. Donc l'avantage, c'est que grâce à la technologie, on va aller beaucoup plus vite que ce qui s'est passé dans le passé. On pourra pouvoir, avec des investissements logiques dans certaines plateformes, on peut comme ça diffuser des soins de qualité, en tout cas une orientation de qualité, puisqu'on ne peut pas tout faire à distance, mais au moins une orientation de qualité qui permet comme ça d'optimiser le parcours de soins des patients, quelle que soit leur position géographique.
Docteur Jacques Durand, fondateur de Docteur Gratis, nous parlait depuis Paris. Après plus de deux décennies de baisse, la mortalité due aux maladies cardiovasculaires stagne quasiment depuis 2011 aux États-Unis, sans doute en raison d'une forte augmentation de l'obésité et du diabète adulte, selon une étude publiée cette semaine. Des précisions avec Idrissa Seloudia.
De 2000 à 2011, le nombre de décès résultant d'infarctus a diminué en moyenne de 3,7% par an au niveau national, et le nombre de décès provoqués par un accident vasculaire cérébral, AVC en un mot, de 4,5% d'après ces chercheurs dont les travaux ont paru mercredi dernier dans la revue médicale américaine de cardiologie. Pendant ces 11 années, la mortalité due aux maladies cardiovasculaires, infarctus et AVC, a baissé en moyenne de 3,8% par an. Mais depuis 2011, la baisse a diminué à moins de 1% par an. Les maladies coronaires sont la première cause de décès aux États-Unis depuis 1921. Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies CDC, dont les statistiques ont été utilisées pour cette recherche. Pendant les deux dernières décennies, le déclin de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires a été attribué à des avancées dans les traitements médicaux et la prévention. Les chercheurs citent l'usage accru des statines, de puissants anticholestérol et de l'aspirine, ainsi que la forte diminution du tabagisme et un accroissement de l'exercice physique couplé à des campagnes pour traiter l'hypertension artérielle. Selon le docteur Jamal Rana, cardiologue du Kaiser Permanente, un groupe de soins médicaux qui gère 32 hôpitaux aux États-Unis, l'un des auteurs de l'étude, l'accroissement de la fréquence de l'obésité et du diabète adulte type 2, qui sont des facteurs de risque de développement de maladies cardiovasculaires, pourrait bien être la cause de cette stagnation.
Une centaine de prix Nobel, dont une quarantaine de Nobel de médecine, ont demandé au gouvernement du monde entier de désavouer la campagne de Greenpeace contre les OGM, et plus particulièrement contre le riz doré, dans une lettre ouverte. Jean-Roger Billon.
Les signataires de la lettre, qui représentent plus d'un tiers des lauréats du Nobel encore en vie, demandent à Greenpeace et ses partisans de reconnaître les résultats des organismes scientifiques compétents et des agences réglementaires et d'abandonner leur campagne contre les OGM en général et contre le riz doré en particulier. Ils appellent les gouvernements du monde entier à désavouer la campagne de Greenpeace et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour accélérer l'accès des agriculteurs à tous les outils de la biologie moderne, dans leur lettre également adressée à l'ONU. Publiée sur le site supportprecisionagriculture.org, la lettre est notamment signée par de nombreux prix Nobel de médecine, mais également de chimie et de physique. Parmi les plus connus figure le Britannique James Watson, qui a découvert la structure de l'ADN. Les signataires relèvent que toutes les agences scientifiques et réglementaires dans le monde ont établi de manière répétée et cohérente que les cultures et les aliments améliorés grâce aux biotechnologies sont sûrs, sinon plus, que ceux provenant de toute autre méthode de production. Mais Greenpeace a été le fer de lance de l'opposition contre le riz doré enrichi en vitamine A qui, précise-t-il, a le potentiel de réduire ou d'éliminer la plupart des décès et maladies causés par une carence en vitamine A dont souffrent 250 millions de personnes dans le monde et notamment 40% d'enfants de moins de 5 ans dans les pays en voie de développement. L'opposition basée sur l'émotion et le dogme et contredite par les faits doit être stoppée, conclut-il. Dans une réaction datée de Manille, Greenpeace a rejeté les accusations concernant le riz doré, soulignant que selon l'Institut international de recherche sur le riz, son efficacité pour combattre la carence en vitamine A n'avait pas été prouvée.
Après avoir transformé l'industrie manufacturière, les robots font de plus en plus partie de notre vie quotidienne. Ils ne ressemblent pas aux humains, mais ces machines dotées d'intelligence artificielle tendent davantage à remplacer les personnes pour des emplois allant de réceptionniste au voiturier. Reportage de Georges Putic, relaté ici par Claire Morin-Gibourg.
Il y a longtemps, les robots industriels ont commencé à remplacer les humains dans de nombreux emplois pénibles et dangereux, tels que le soudage de milliers de pièces identiques pour des voitures ou d'autres machines. Les robots plus sophistiqués sont capables de soulever et de déplacer des charges énormes avec précision, telles que des locomotives ou encore de trier des marchandises pour une expédition plus rapide. Les robots de la dernière génération peuvent désormais garer des véhicules dans de si petits espaces que de nombreux conducteurs éviteraient de peur d'endommager leur véhicule ou celui de quelqu'un d'autre. La société chinoise Yefeng Automation Technology affirme que son robot voiturier Geta peut garer une voiture en 2 minutes en toute sécurité.
Le robot peut se déplacer et aller partout sans rail, ce qui le rend libre et polyvalent. Il va révolutionner la façon de se garer à l'avenir.
Marco Wu affirme qu'en plus de gagner du temps pour chaque manœuvre, le robot de stationnement utilise jusqu'à 40% de moins d'espace quand il gare une voiture, ce qui pourrait être important, surtout dans les grandes villes.
Hello, I am Pepper. Can I help you with something?
Bonjour, je suis Pepper. Puis-je vous aider?
Un autre robot, plus humain, a récemment commencé à travailler comme réceptionniste dans un hôpital à Ostende, en Belgique. Haut comme 3 pommes, 1,2 mètres seulement, le robot Pepper, construit par Zora Bots, peut parler 19 langues et sait comment interagir avec les enfants et même les bébés.
Il ne l'a pas effrayé et c'est important, surtout pour les enfants.
Avec une batterie pleine, Pepper peut fonctionner jusqu'à 20 heures d'affilée. Il peut analyser les tons de voix et les expressions du visage. Et pour ses créateurs, sa fonction principale est de permettre aux gens de se sentir mieux dans un milieu hospitalier. À en juger par l'expression de cette petite fille qu'il a rencontrée, Pepper semble être fait pour le job.
Retour sur l'événement de la semaine dans le domaine de l'exploration spatiale par nous les Terriens. Après un périple de 2,7 milliards de kilomètres, la sonde Juno de la NASA a réussi à se mettre en orbite autour de Jupiter. Juno a 20 mois pour percer les mystères de la plus grande planète du système solaire. Sa mission, explorer l'intérieur jusque-là inobservable de Jupiter et mieux comprendre ses origines, comme nous l'explique Michel Joseph.
Dès cette semaine, l'agence spatiale américaine a publié sur son compte SoundCloud les étranges sons enregistrés par Juno. Ce que vous entendez sont des ondes sonores captées par la sonde durant son voyage autour de Jupiter. Pour la première fois, Juno frôlera les pôles et l'équateur jovien et pourra ainsi pénétrer l'épaisse couche nuageuse jusqu'au cœur de la planète géante. Et cela grâce à ses 9 instruments. À la NASA, on est tout excité. Diane Brown, responsable de la mission Juno.
Je veux dire, c'est impressionnant le temps et l'effort que l'équipe a consacré à ce projet et les risques qui ont été surmontés. C'est incroyable.
Mais quels sont les grands mystères de Jupiter? Eh bien, les scientifiques pensent que Jupiter a été la première planète du système solaire à se former, mais ignorent comment.
Ainsi s'achève ce numéro de Carrefour. Merci aux collègues qui m'ont aidé à préparer cette édition. Michel Joseph était à la réalisation, Jacques Aristide au micro. Je vous remercie de nous avoir suivis. Très bonne écoute sur VOA Afrique. À très bientôt.